Voilà. Oui, je ne l'ai pas dit, moi aussi j'ai fait des études d'anglais. Donc je peux dire let's go. Alors, bonne fête à chaque maman. Hein. C'est pour nous en France, ce sera le 25. Donc on a la chance, on fête deux fois. Voilà. Alors, j'aimerais en ce jour honorer une femme de la Bible, une femme qu'on connaît bien, j'en suis sûr, une maman. Est-ce que c'est la mère de Jésus, Marie? Et nous allons ouvrir ensemble l'évangile de Luc, au chapitre 1er. À partir du verset 26. Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme de la famille de David appelé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie parmi les femmes. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte. Tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange: Comment cela se fera-t-il, puisque je n'ai pas de relation avec un homme? L'ange lui répondit: Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, est elle aussi devenue enceinte d'un fils dans sa vieillesse. Celle que l'on appelait stérile est dans son sixième mois. En effet, rien n'est impossible à Dieu. Marie dit: Je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. Et l'ange la quitta, on peut dire Amen. Est-ce que vous permettez que l'on se recueille, que l'on prie quelques instants, s'il vous plaît? Alléluia. Seigneur, nous sommes devant toi. Et nous te glorifions de ce que dans ce lieu ton nom est invoqué. Merci pour mes frères, pour mes sœurs qui sont ici présents. Et merci Seigneur pour ta présence elle-même au milieu de nous. Et ta grâce est telle que ta parole même est partagée. Et c'est pour nous une joie et une reconnaissance de nos cœurs. Que ta parole Seigneur nous touche encore ce matin. Qu'elle nous renouvelle par le Saint-Esprit et qu'elle nous amène à aller plus loin avec toi, dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Comment cela se fera-t-il? Ça a été la question de Marie. Je ne sais pas quel est votre avis, mais d'après vous, est-ce qu'en 2025, Dieu est vivant? Oui, alléluia. On peut dire que Dieu est vivant. On peut le déclarer. Est-ce que pour vous, en 2025, Dieu agit? Oui, il agit encore. Il agit toujours. Ici, on connaît l'histoire. C'est une vierge qui va devenir enceinte. Il y a un problème dans la phrase. Hein? Ou la femme devient enceinte et ce n'est pas une vierge, ou elle est vierge et elle ne peut pas être enceinte. Mais là, c'est le miracle de Dieu. La Vierge sera enceinte, c'était une promesse, une prophétie qui trouve ici son accomplissement. Pourquoi? Parce que Dieu est vivant et Dieu agit. Alors, la question que j'aimerais voir avec vous succinctement ce matin, c'est comment Dieu agit-il? Et je trouve que c'est une question pertinente pour nous aujourd'hui. Qu'on dise à quelqu'un Dieu est vivant, peut avoir une bonne réaction en face en disant bah, oui, je suis d'accord. Qu'on dise à quelqu'un Dieu agit, peut avoir aussi une bonne réaction, mais si on nous pose la question comment Dieu agit-il? Comment quels sont les ingrédients qui permettent à Dieu d'agir. Et on va le voir au travers de cette femme. La première chose que j'aimerais souligner avec vous, c'est que Dieu agit par une foi agissante. C'est-à-dire que si notre foi, elle est active, alors Dieu peut agir. Cette femme, Marie, quand elle demande « Comment cela se fera-t-il ?» elle rajoute « Puisque je n'ai pas de relation avec un homme », cette déclaration vient s'opposer à l'incrédulité d'une autre personne. Et si on relit ce chapitre premier, et je vous laisserai le relire chez vous, il y avait un autre couple. Le nom du mari était Zacharie, le nom de l'épouse Élisabeth. Et quand l'ange vient voir Zacharie pour annoncer que sa femme allait enfanter dans sa vieillesse, lui aussi il a une question. Et il va dire « À quoi reconnaîtrai-je cela ?» Dans un certain sens, lui aussi, il a un « comment » avec le point d'interrogation. « Comment cela se fera-t-il ? À quoi reconnaîtrai-je cela ?» Sauf que la différence entre l'un et l'autre, c'est que Zacharie, quand il dit « Mais comment cela va-t-il se faire ?» Zacharie, il ne croit pas. Zacharie ne croit pas. Il est en train de dire « Mais ce n'est pas possible. » Ça ne peut plus se faire. On est trop vieux. Moi et ma femme, on est trop âgés. On ne peut plus avoir d'enfants. Ce que tu es en train de m'annoncer là est impossible. Et l'ange va lui dire par la suite, tu vas devenir muet parce que tu n'as pas cru. Parce que tu n'as pas cru. Alors qu'ici, Marie qui pose elle aussi une question, comment ? Elle, c'est un comment de foi. C'est-à-dire que derrière, elle dit, je n'ai pas de relation avec un homme. Qu'est-ce qu'elle sous-entend ? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Est-ce qu'il faut que j'aille vers mon fiancé ? Il faut qu'on se marie vite pour qu'on ait un premier enfant, pour que ce que tu dis eh bien, va s'accomplir. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Et vous voyez, sa foi à Marie se situe plus dans le « je crois, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?»« Je crois, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?» C'est une foi qui est prête à agir pour voir les choses de Dieu s'accomplir. Et mon frère, ma sœur, permettez-moi de vous appeler ainsi, nous sommes tous frères et sœurs, nous qui croyons en Jésus. Mon frère, ma sœur, est-ce que ta foi est agissante ? Est-ce que quand tu crois, tu as ce même cœur pour dire « Je crois, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?» On est prêt à faire, on est prêt à bondir quand on croit en Dieu. Et c'est ici la foi du mari. J'aimerais souligner la différence, et il y en a. Hein. On est, de par le monde, dans un débat du genre, vous savez, le genre masculin, le genre féminin, l'homme, la femme. Il y a toutes sortes de débats sur le thème aujourd'hui. Dieu tranche directement à la création quand il crée l'homme, homme, et la femme, femme. Et ce n'est pas pour rien. C'est parce que les particularités du genre masculin et les particularités du genre féminin sont différentes, même dans la manière de croire. J'ai réfléchi sur les personnages principaux de la Bible et j'ai pu constater que à chaque fois qu'un homme a cru, ça a été différent que lorsqu'une femme a cru. Je ne sais pas si vous avez fait attention à ça. Hein ? Alors, juste pour bien étayer mon analyse. Ici, Marie, qu'est-ce qu'elle dit ? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? La mère de Moïse, s'appelait Jochébède, vous vous rappelez ? Elle, quand elle a vu que l'enfant était beau, la Bible nous dit, c'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui va le dire beaucoup plus tard, c'est par la foi qu'elle a vu que son enfant était beau et qu'elle l'a caché. Et ne pouvant plus cacher, elle s'est dit, mais qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Je crois que l'enfant est beau. Je crois qu'il y a quelque chose de particulier pour cet enfant. Mais qu'est-ce que je dois faire ? Alors, se recommandant à Dieu, elle va faire ce petit couffin de fortune, ce tout petit bateau, hein, ce berceau enduit de poids pour ne pas que ça coule. Et elle va poser sur le Nil, en recommandant au Seigneur. Mais toujours pareil. Qu'est-ce qu'il faut faire ? La sœur de Moïse, même chose. Cet enfant féminin. La Bible nous dit dans le livre de l'Exode qu'elle va ensuite regarder, alors que Jochébède, la maman, elle est rentrée chez elle, Marie ou Myriam va regarder de loin le petit couffin pour voir ce qui allait se passer. Dans l'hébreu, le verbe « voir » ici signifie « regarder » pour voir s'il n'y a pas quelque chose à faire. C'est-à-dire qu'elle allait suivre du regard le petit berceau. S'il y avait un problème, elle allait intervenir. Et d'ailleurs, l'histoire nous montre qu'elle est intervenue, puisque quand la fille de Pharaon va prendre l'enfant, elle va tout de suite dire « Ah, tu cherches une nourrice ? Je peux t'aider ?» Vous voyez ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Une foi agissante. On aurait tellement d'autres exemples. Marie, Madeleine, par exemple. Quand les femmes viennent au tombeau pour embaumer le corps de Jésus et que le corps n'est plus là, Jésus est devant elles. Elle ne le reconnaît pas. Elle croit que c'est le jardinier. Qu'est-ce qu'elle dit ? Où est son corps ? Est-ce que c'est toi qui l'as pris ? Il faut que je l'embaume. Toujours. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc ma femme Sophie, elle est un peu pareille. Elle est à côté de moi et à chaque fois, elle est en train de chercher qu'est-ce qu'il faut faire. Dans l'Église, c'est difficile à définir ses tâches, ses responsabilités, parce qu'elle est toujours en train de chercher qu'est-ce qu'il faut faire. Johan, il y a ça à faire. Des fois, je suis fatigué juste en sachant ce qu'il y a à faire. C'est la particularité féminine. L'homme est différent. Vous savez pourquoi ? L'homme est plus du genre à attendre. Et il faut que Dieu vienne. Et souvent, il faut que Dieu vienne secouer en disant, lève-toi, oh, tu dors ou quoi ? L'homme est comme ça. Abraham, si Dieu n'était pas venu le secouer, il serait resté à Charan avec Térak. Dieu lui dit, je t'appelle pas là, je t'appelle plus loin. À Canaan, lève-toi, quitte-moi tout ça, lève-toi. Gédéon, si Dieu n'était pas venu, si l'ange de l'Éternel n'était pas venu, il serait resté à son pressoir. Alors qu'il y avait des victoires à remporter, Dieu vient lui dire, oh, lève-toi. Oui, alléluia. Moïse, il serait toujours resté avec son beau-père dans le désert. Il a fallu que Dieu vienne le voir dans un buisson ardent. Il a fait fort. Parce que sinon, Moïse, jamais il ne se serait détourné de sa vie d'alors. Lève-toi, va. Et Moïse, tous les arguments qu'il trouvait, non, j'ai la langue embarrassée, envoie quelqu'un de meilleur, ils ne me croiront pas, s'ils me demandent ton nom, tous les arguments que sort Moïse. Mais Dieu lui dit, c'est toi que j'envoie, c'est toi, vas-y. Même dans le Nouveau Testament, Pierre, on est d'accord, il a renié Jésus. Dans Jean chapitre 21, regardez cet homme triste, qui après cette deuxième pêche miraculeuse, au lieu de se réjouir, il va dans un coin. Jésus vient le voir. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? Tu m'aimes ? Paie mes brebis. Ce n'est pas fini. Paie mes brebis. Pour les disciples d'Emmaüs, eux, ils avaient carrément démissionné, ils étaient en train de partir. Mais Jésus les rattrape. Où est-ce que vous allez ? Et Jésus leur parle. D'après les Écritures, leur cœur brûle à nouveau. Alléluia. Notre cœur a besoin de brûler à nouveau. Notre cœur a besoin de brûler à nouveau à la parole du Seigneur. Notre foi doit être agissante. Et en cette fête des mères, j'aimerais vraiment, et ce n'est pas juste à cause de l'occasion, mais vraiment féliciter la foi des mamans. Hein. Vraiment féliciter la foi des dames, des sœurs au milieu de nous. Parce que sans vous, il n'y aurait pas d'homme de Dieu. Sans vous, il n'y aurait pas d'homme de Dieu. Il n'y aurait pas d'homme donc qui aurait l'attaque suffisante pour l'œuvre de Dieu. Alors, Comment Dieu agit-il à partir de notre foi active, de notre foi agissante? La deuxième chose que j'aimerais souligner, selon les paroles de l'ange à cette jeune fille, Marie, c'est que l'œuvre de Dieu, quand Dieu agit, nous, on s'attend toujours à ce qu'il agisse dans la situation qu'on lui présente. N'est-ce pas? Seigneur, ça ne va pas, agis. Seigneur, dans ma famille, il y a un problème, agis. Seigneur, dans mon travail, il y a un problème. Dans mes finances, il y a un problème, agis. Et on attend, on se dit, on croit, Seigneur, on croit de tout notre cœur, agis. Et on regarde et on attend, alors que Dieu, d'abord, il veut agir en nous. Dieu veut d'abord agir en nous. Frères, sœurs, chers amis, quand on traverse une situation difficile, il nous faut comprendre ce matin que Dieu veut d'abord agir en nous. Et si la situation difficile arrive, c'est parce qu'il y a quelque chose à faire en nous. Très souvent, c'est parce qu'il y a quelque chose à faire en nous. L'œuvre de Dieu en nous. Verset 28 du texte que nous avons lu, l'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » L'œuvre de Dieu en nous, c'est avant tout la grâce. Alléluia. C'est la grâce. C'est la grâce. Et ça va tout de suite peut-être nous calmer, nous, parce que ce ne sont pas nos mérites. Ce n'est jamais ce que nous, on va faire. C'est toujours la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. À toi, une grâce a été faite. Frères, sœurs, chers amis, nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu. Nous avons été sauvés par grâce. Nous avons été rachetés par grâce. Notre nom est dans le livre de vie par grâce. Tout est par grâce. Alléluia. On n'a rien mérité et on ne méritera jamais rien. On peut être le plus formidable chrétien sur la terre. On ne méritera jamais rien. On peut avoir fait de grands prodiges, de grands signes, de grands miracles sur la terre. On ne méritera jamais rien. Rien. Vous vous rappelez de cette histoire qui moi, me fait toujours froid dans le dos, de ces personnes qui se sont présentées à la porte du ciel, selon les paroles de Jésus lui-même. Certains vont dire, Seigneur, on a fait des miracles en ton nom. D'autres vont dire, Seigneur, on a chassé des démons en ton nom. Et d'autres vont dire encore, on a prophétisé en ton nom. C'est puissant les prophéties, n'est-ce pas? C'est puissant, eh bien, les miracles. C'est puissant le fait de chasser des démons. Mais Jésus va leur dire, je ne vous connais pas. Retirez-vous de moi. Je ne vous connais pas. Ces personnes pensaient que avoir fait toutes ces choses sur la terre leur donnait l'accès au ciel. Mais non. Nos œuvres ne sont jamais méritoires. Tout ce qu'on peut faire sur la terre, c'est par la grâce de Dieu. Mais Jésus va dire à ses disciples un jour, réjouissez-vous de ce que votre nom est inscrit dans le livre de vie. C'est la grâce. C'est la grâce. C'est la grâce. La grâce est une faveur imméritée. On ne peut donc rien faire pour l'avoir. On n'a qu'à l'accepter. On n'a qu'à la recevoir. Comprenons les principes de la grâce ici. Dieu aurait pu faire les choses sans que Marie en soit avisée, n'est-ce pas? Dieu aurait pu faire les choses par lui-même, sans se révéler. Mais il veut qu'elle jouisse pleinement de cette grâce. Voilà pourquoi il se révèle. Il veut que Marie prenne conscience de la grâce qui lui est faite. Et cher ami, Dieu veut que l'on prenne conscience de la grâce qui nous est faite. Notre grâce, à nous, c'est que Jésus est mort pour nous à la croix. C'est que son sang a coulé pour chacun de nous. Paul va dire à Tite, la croix de Jésus-Christ est la grâce. En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété en attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélés pour de belles œuvres. Amen. Jésus est mort pour nous, afin de nous racheter de notre condition ancienne, afin de nous racheter de ce que nous étions. Le sang de Jésus a coulé, non pas à cause de ce que nous aurions fait pour le mériter. Jésus est mort pour nous, alors que nous étions des impies. Jésus est mort pour toi. Parfois, on se dit, ben, pour marcher avec Jésus, pour pleinement croire en Jésus, j'attends d'être meilleur. On ne peut pas être meilleur. On ne peut pas être meilleur. La Bible nous dit, eh bien, le léopard peut-il changer la couleur de ses taches ? Non. Non. L'Éthiopien peut-il changer la couleur de sa peau ? Non. Non, le Réunionnais non plus. L'homme ne peut pas changer sa nature. On ne peut pas changer notre nature. C'est impossible. On va faire un effort pour un jour, deux jours, mais on va redevenir ce qu'on était. Mais le sang de Jésus a coulé pour nous. Alléluia. C'est la grâce de Dieu. Et le sang de Jésus nous transforme, fait de nous de nouvelles créatures. Deuxièmement, comment Dieu agit-il en nous ? Par sa grâce, mais aussi par sa parole. Je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. Dieu agit en nous par sa parole. La parole de Dieu constitue la direction de Dieu pour nos vies. Par sa parole, Dieu nous montre le chemin. Alléluia. Le psalmiste va dire, je vais citer rapidement le psaume 119, verset 9, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole, ô Éternel. Alléluia. Toujours le psaume 119, verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Alléluia. Si quelqu'un cherche eh bien, le sens, la direction dans son existence, le pourquoi de notre présence ici-bas, la parole de Dieu est là pour nous éclairer. La parole de Dieu est là pour nous montrer. Si en tant que chrétien, on cherche eh bien, où vont nous guider nos choix, qu'est-ce qu'on doit faire pour ceci ou pour cela, la parole de Dieu est la direction. C'est écrit. Alléluia. On n'a pas inventé. Dieu nous a déjà tout donné par sa parole. Alléluia. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne lit plus. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on prend de moins en moins de temps avec les Saintes Écritures. Pourtant, tout est là. Le problème, c'est qu'on a plus de facilité à attendre que la voix de Dieu se fasse entendre du ciel. Tellement plus facile, hein ? Ou bien, on va voir tel frère, telle sœur, qui peut-être est plus ancien que nous, en disant, est-ce que Dieu t'a parlé pour moi ? Peut-être plus facile, plus rapide. Hein ? Mais tout est là. Pourquoi chercher ailleurs ? Tout est là. Tout est dans notre Bible. Tout est dans les Saintes Écritures. La parole de Dieu est la direction. Plus qu'une direction, la parole de Dieu est vivante pour agir en nous. Elle est vivante. Et ce qui fait la différence entre la Bible et tous les autres livres de notre bibliothèque, c'est que la parole de Dieu est vivante. Elle est vivante. Jésus va dire, ma parole est esprit et vie. Elle est vivante. Hébreux chapitre 4, verset 12, nous dit que la parole de Dieu est vivante, qu'elle est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, qu'elle pénètre, qu'elle partage, jointure et moelle, âme et esprit. Elle juge les sentiments et les pensées de nos cœurs, car rien n'est caché. Mais tout est à découvert. Il est le Seigneur. Alléluia. Et sa parole est vivante. Quand on ouvre notre cœur à la parole de Dieu, on sent la vie de la parole en nous, parce qu'elle est vivante. On sent notre cœur se remuer à la parole, parce qu'elle est vivante. Alléluia. Elle est vivante. Et enfin, la parole, c'est le miroir par lequel le Saint-Esprit nous transforme. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Lorsque le visage découvert, on regarde dans ce miroir de la parole. Nous sommes transformés de gloire en gloire par le Seigneur, l'Esprit. Alléluia. Autrement dit, quand j'ouvre les Écritures, c'est un miroir. Pourquoi c'est un miroir ? Parce que les Écritures me montrent ce que je suis. Quand vous regardez dans un miroir, hein, mes chers frères, pour vous faire beau, mes chères sœurs, pour vous faire belle, quand vous regardez dans le miroir, qu'est-ce que le miroir révèle premièrement ? Eh bien, tous les défauts qu'il y a. Ben oui. tous les défauts qu'il y a. Ouh mon Dieu, la quantité de maquillage que je dois mettre. Tous les défauts qu'il y a. Si je me suis mal rasé, s'il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, on voit tous les défauts à corriger. C'est le miroir. Qui va dire au miroir, mais le miroir, il n'est pas bon, je vais le jeter. Ça ne peut pas être moi. Mais non, le miroir, ce n'est pas le problème. Le problème, il est là. Le changement à faire, il est là, ce n'est pas le miroir. Quand on regarde au miroir, on se voit soi. Quand on ouvre la parole de Dieu, Dieu nous montre ce que l'on est. Même si ce n'est pas beau. Même si ce n'est pas beau. Et ce qui n'est pas beau n'effraie pas Dieu. Ça va peut-être nous effrayer, nous. Mais ça n'effraie pas Dieu. Parce que lui, il peut nous transformer. Alléluia. Il nous aime déjà. Alléluia. Il nous aime déjà comme nous sommes. Et lui peut nous transformer. Lui peut enlever les défauts. Alléluia. Comment ? De gloire en gloire, par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Et cela m'amène, troisième angle d'action de Dieu en nous, le Saint-Esprit viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre, c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Verset 35. Le Saint-Esprit. Quand Dieu agit en nous, il agit définitivement par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ici le texte nous apprend que le Saint-Esprit vient sur nous. Pour que Dieu agisse, le Saint-Esprit vient sur nous. Qui est le Saint-Esprit ? Le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance impersonnelle. Le Saint-Esprit n'est pas une masse quelque part. Le Saint-Esprit, c'est la personne de Dieu. Il y a trois personnes en Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. On a donné un nom à cela, hein, la Trinité. Ça ne se trouve pas dans la Bible, mais il faut bien appeler un chat, hein. La Trinité, à savoir une personne et trois personnes. Ça dépasse notre intelligence et inexplicable. Mais c'est réellement un seul Dieu, mais trois personnes, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. On conçoit aisément le Père, Dieu créateur de toutes choses, assis sur son trône éternel. On conçoit aisément le Fils, Dieu fait homme, le Christ. On conçoit un peu moins le Saint-Esprit, en tant que personne. Pourtant, le Saint-Esprit est bien une personne. Nous n'aurons pas le temps d'en faire l'étude ce matin. Mais le Saint-Esprit est une personne. Quand Pierre va dire à Ananias et Saphira dans Actes 5, comment avez-vous pu mentir au Saint-Esprit ? Vous êtes d'accord qu'on ne peut pas mentir à une chose. Je ne peux pas mentir à ce pupitre. On ne peut pas mentir au banc. On ne manque à une personne. Quand dans Actes 13, il est dit, eh bien, quand le Saint-Esprit va dire, mettez-moi à part Paul et Barnabas, c'est le Saint-Esprit qui parle, c'est une personne. Quand Paul va dire, n'attristez pas le Saint-Esprit, il n'y a qu'une personne qui puisse être triste. Ce n'est pas une chose. Le Saint-Esprit, frères, sœurs, chers amis, c'est une personne. Et elle doit être considérée comme telle. C'est quoi la caractéristique d'une personne ? Ben, regardez à votre droite, à votre gauche, il y a des personnes, n'est-ce pas ? Et une personne a sa personnalité. Une personne a ses caractéristiques. Vous ne pouvez pas, vous-même, donner à une personne autre que vous les caractéristiques que vous voulez. On ne peut pas, eh bien, de nous-mêmes, changer ce qu'une personne est. Pourquoi voudrions-nous le faire avec le Saint-Esprit ? Pourquoi voudrions-nous donner au Saint-Esprit des attributs que nous voudrions donner ? Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est une personne. À nous de chercher ce que le Saint-Esprit veut. À nous de chercher ce que le Saint-Esprit fait. Et qu'est-ce qu'il veut faire ? Le Saint-Esprit veut venir sur nous. Alléluia. La Pentecôte, c'est le Saint-Esprit qui vient sur toute chair. Le Saint-Esprit nous couvre de son ombre et il s'agit de la puissance. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, Actes 1:8. Et vous serez mes témoins, pardon. Le Saint-Esprit, quand il nous couvre de son ombre, c'est sa puissance qui est en nous et le Saint-Esprit qui enfante. Le Saint-Esprit nous permet d'enfanter Christ. C'est ce qui est dit ici à Marie. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Tu n'auras pas besoin de chercher une relation avec un homme. Tu n'auras pas besoin de chercher à faire les choses humainement. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et qu'est-ce qu'il va faire, le Saint-Esprit ? Il va te permettre d'enfanter Christ. Jésus-Christ. De la même manière, et là c'est spirituellement que je parle, quand le Saint-Esprit vient en nous, le Saint-Esprit nous permet d'enfanter Christ. C'est-à-dire que le Christ est formé en nous. Et plus nous allons laisser le Saint-Esprit agir en nous, plus les autres ne vont plus nous voir. Ils vont voir Jésus. Vous serez mes témoins. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Mes chers amis, le Saint-Esprit nous transforme vraiment pour nous faire ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. Alléluia. Enfin, si l'œuvre de Dieu se fait en moi, l'œuvre de Dieu peut donc se faire autour de moi. Tout à l'heure, je vous disais qu'on attend que Dieu agisse autour de nous d'abord. Non, Dieu agit en nous d'abord. Mais une fois qu'il a agi en nous, il peut agir autour de nous. C'est ce qui se voit ici. Dieu va dire dans les versets 36 et 37, « Voici qu'Élisabeth, ta parente, est elle aussi devenue enceinte d'un fils dans sa vieillesse, celle que l'on appelait la stérile, et dans son sixième mois. En effet, rien n'est impossible à Dieu. » Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait ici pour Marie ? Premièrement, Dieu accomplit sa parole. Dieu accomplit sa parole. Chers amis, Dieu accomplira toujours ce qu'il a dit. Ce qui fait que Dieu est Dieu, c'est qu'il va accomplir toujours ce qu'il a annoncé. Toujours. Nous ne pouvons pas le faire. Parfois, on fait des promesses, mais pour les tenir, c'est autre chose. Parfois, même aux personnes que l'on aime, on fait des promesses qu'on n'arrive pas à tenir. N'est-ce pas ? Combien de promesses vous avez faites à vos enfants ? Pas évident, hein ? Et pourtant, sur le coup, on avait toute la bonne volonté. On a dit vraiment avec notre cœur, on le voulait vraiment, mais au final, on n'a pas pu tenir. Mais par contre, Dieu, quand il dit quelque chose, il l'accomplit toujours. Alléluia ! Toujours ! Deuxièmement, Dieu parle à son fiancé. Voyez la tension qui commençait à naître là. Dans Matthieu chapitre 1er, il nous est dit que Joseph, son fiancé, en voyant que Marie était enceinte, il va se proposer de rompre secrètement avec elle. Mais c'est terrible. C'est terrible. Mais c'est naturel, c'est normal. Et il est fiancé à cette jeune fille et il voit que la fille est enceinte. Tout de suite, dans son esprit, qu'est-ce qui se passe ? Elle m'a trompé. Elle m'a trompé, forcément. Mais comme il l'aimait, ne voulait pas la diffamer, il se disait, mais ah, comment je vais faire ? Je vais rompre secrètement avec elle. Marie aurait pu dire, attends Joseph, ce n'est pas ce que tu crois. Joseph, ce n'est pas ça. C'est quoi alors ? C'est le Saint-Esprit ? Qu'est-ce que tu me racontes, Marie ? Marie n'a pas cherché à argumenter, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qu'elle pouvait dire ? Pas grand-chose. Elle a laissé le Seigneur faire. Et le Seigneur a parlé à Joseph. Alléluia. Chère sœur, il y a une tension dans le couple ? Laisse Dieu parler à ton mari. Souvent, vous avez remarqué, nous, on a vite fait de chercher à argumenter. Non, c'est pas comme ça, c'est pas comme tu dis. Alors là, la tension monte. Là, non, c'est comme je dis, c'est exactement comme je dis. Et ça y va, ça y va. Marie, rien du tout. Dieu parle beaucoup mieux que nous. Alléluia. Et quand Dieu parle au cœur de l'autre, les tensions dans le couple s'apaisent. S'apaisent. Je vois que vous riez, vous voyez de quoi je parle alors. Les tensions s'apaisent. Et il faut que les tensions dans le couple s'apaisent. Dieu peut faire le travail si on laisse le Seigneur agir en nous. Vous savez, il y a un homme de Dieu qui prêchait un jour, vous le connaissez peut-être, s'appelle David Mohan, c'est l'ancien président des assemblées de Dieu mondial. Et il disait, vous savez, quand on marche dans la rue et qu'on passe à côté d'une cour et qu'un chien de l'autre côté du grillage se met à nous aboyer, qu'est-ce qu'on fait ? Et là, l'assistance ne répondait pas. Et il a dit, lequel d'entre vous s'est retourné pour aller aboyer le chien ? Le chien nous fait waf, waf, waf. Lequel d'entre nous se retourne pour faire au chien waf, waf, waf ? Personne. Et ensuite, il a dit, mais pourquoi vous faites ça dans votre couple ? Pourquoi vous vous criez dessus comme ça dans votre couple ? Pourquoi quand l'autre crie, on essaie de crier plus fort et on essaie encore de crier plus fort ? La tension monte, monte, monte. Alors qu'il suffit juste de faire silence et de laisser le Seigneur parler. Alléluia. Et la tension s'apaise, s'apaise. Troisièmement, on voit que Dieu protège l'enfant. L'enfant est en danger. Hérode veut le tuer. Dieu protège l'enfant de Marie. Alléluia. Parce que cette femme a cru dans le Seigneur. Comment cela se ferait-il ? Parce que Dieu agit quand nous croyons en lui. Une foi agissante amène donc Dieu à agir en nous. Une foi agissante amène Dieu à agir autour de nous. Dans des manières inexpliquées, inexplorées parfois, Dieu est vivant. Alléluia. Et il agit toujours. Ce matin, nous n'avons qu'à croire en lui. Quel grand Dieu nous avons. Voulons-nous quelques instants prier le Seigneur ? Alléluia. Seigneur, tu nous as parlé par ta parole. Que nos cœurs aient cette foi agissante. Et si nous sommes parfois démunis face aux situations de la vie, si nous sommes démunis face aux défis, face aux drames, face aux choses même qui se passent dans notre maison, si nous sommes démunis face à l'avenir qui est devant nous, si nous sommes démunis dans une relation, Seigneur, tu es vivant. Tu es vivant. Et toi, tu peux encore agir. Là où notre main s'arrête, ta main continue. Là où notre puissance et notre capacité s'arrêtent, le Saint-Esprit continue ce matin. Et nous croyons en toi. Nous invoquons ton nom dans ce lieu, Seigneur. Et nous nous attendons à ta grâce, dans le nom de Jésus-Christ. Bénis chacun de nous. Bénis les frères, les sœurs, bénis les familles qui sont ici. Bénis les couples, bénis les enfants qui sont ici, Seigneur. Et que ta grâce repose dans cette maison, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Voilà, merci à vous et que le Seigneur vous bénisse abondamment.